RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story dans les grandes gueules. Aujourd'hui, l'avocate Sandrine Pégan, le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers et le retour notre ami fromager des Deux-Sèvres, Johnny Blanc, un historique des GG. C'est la deuxième heure des grandes gueules. De quoi va-t-on parler dans cette deuxième heure des GG? On va évoquer ce que veut faire le maire de Paris, avoir des quartiers 100% piétons. Il en veut 70 de plus dans la capitale, c'est-à-dire même pas de vélo. Alors on savait que les voitures on n'en voulait plus, maintenant on veut plus des vélos non plus. Des quartiers 100% piétons, vous venez en discuter tout à l'heure avec nous à 11h-20. La transmission d'entreprise, ça c'est le coup de gueule de Johnny Blanc et c'est un gros dossier qu'ont sorti nos confrères des Échos parce que ça concerne 3 millions d'emplois. Les TPI et les PME en France sont des entreprises familiales. Si on ne facilite pas la transmission, elles vont mourir. Et les emplois avec. Alors, est-ce que effectivement aujourd'hui c'est un véritable enjeu économique, la transmission des entreprises? C'est au 32-16 que vous venez là encore en discuter avec les GG. On va regarder un chiffre. D'abord, celui du nombre de clandestins en France. C'est un dossier qu'a sorti notre confrère du Figaro. Le nombre de clandestins sur le territoire, c'est 1 million de personnes.
Alors, bien sûr, il faut prendre des pincettes parce que par définition... compter le nombre de clandestins, c'est difficile, hein, puisqu'ils sont clandestins. Donc c'est une estimation, 1 million de clandestins, ce qui est un peu au-dessus de l'estimation de Gérald Darmanin, qui avait dit entre 600 000 et 700 000. Donc 1 million de clandestins, c'est l'estimation faite par l'Observatoire de l'immigration, et qui est donc cette estimation reprise ce matin par le Figaro. Si on rajoute les 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité, alors ça c'est un vrai chiffre, là aussi c'est un record, jamais eu autant de titres de séjour attribués en France, eh bien c'est vrai qu'on peut dire que jamais la France n'aura compté autant d'étrangers sur son sol. Désormais, un tiers de la population française, écrit le Figaro, a un lien familial direct avec l'immigration. La France est donc un pays de plus en plus façonné par l'immigration, ce qu'a bien d'ailleurs compris politiquement Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon parle carrément de Nouvelle France, et il pense que draguer électoralement cette nouvelle population, ces gens qui ont un lien avec l'immigration, ça sera profitable à la France insoumise. Et puis, c'est aussi compris par Éric Zemmour, de l'autre côté du spectre politique, qui lui dit, attention, c'est le grand remplacement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est complètement dépassé par la cause migratoire ?
32-16, pour le dire au GG, Emmanuel.
Oui, indéniablement, l'immigration est devenue incontrôlée, et pour la raison très simple qu'elle est incontrôlable dans les conditions actuelles de toutes ces lois. Un amoncellement de lois qui font peut-être vivre quelques avocaillons sans cause, mais pour lesquels il y a beaucoup trop de recours. On ne peut plus interpeller. On ne peut plus interpeller un clandestin maintenant. Le délit de séjour clandestin avait été aboli par François Hollande. On ne sait plus trop où ça en est. De toute façon, il n'y a pas de pratique en la matière. Moi qui réside notamment dans le Pas-de-Calais, on voit tous ces pauvres gens qui sont héroïques parce qu'ils ont traversé. Ce sont les meilleurs qui arrivent jusqu'au Pas-de-Calais pour tenter l'Angleterre. Ils sont sportifs. Ils ont vu des drames. Ils sont eux-mêmes pour certains dangereux, pour une partie minoritaire. Et on les voit errer. Personne, on voit, je l'ai déjà dit, des Français comme Johnny Blanc qui me fait face, arrêter un rond-point pour une histoire de pneus usés ou je sais pas quoi par la police, et le clandestin qui passe tranquillement, dont on sait qu'il n'a pas de papier, qu'il n'a aucun titre pour être en France. Donc on ne conçoit pas, très honnêtement, en tant que responsable public ou responsable privé, un avenir qui va permettre de solutionner ce problème. On est dans une forme de submersion. Ce ne sont pas les individus qui sont en cause, c'est tout ce contexte international d'abandon des pouvoirs français, puisqu'on a abandonné toutes nos souverainetés, notre capacité douanière, etc. Et personne ne semble en mesure d'arrêter cette hémorragie.
Sandrine ?
J'ai pas compris, c'était quoi ton...
Les avocaillons sans cause, avec 12 recours.
Tu t'es senti visé ?
Alors,
12 Emmanuel, recours pour. Donc en fait, on ne peut pas cabinet, expulser quelqu'un, quoi.
Dans mon cabinet, on fait en effet du droit des étrangers. Et je peux t'assurer qu'on sauve des gens parce que quand il y a des personnes qui sont là, qui sont sur le territoire français depuis 10 ans, qui sont certes en situation irrégulière, mais qui travaillent, qui n'ont jamais fait parler d'eux-mêmes, qui n'ont jamais été placés en garde à vue, dont les enfants sont scolarisés, et qu'ensuite de quoi, une fois qu'ils sont interpellés, on leur donne une obligation de quitter le territoire, et ben tu sais quoi, ça fait mal au cœur. Et quand nous, on intervient, on est contente de pouvoir faire le nécessaire pour qu'ils aient un titre de séjour et ensuite qu'ils aient le droit de travailler. Donc,
on ne gouverne pas un pays avec des sentiments.
Mais à un moment donné, il faut aussi voir le côté humain.
Non, mais on peut être pragmatique et faire preuve de bon sens. C'est-à-dire, pourquoi emmerder quelqu'un?
Et nous, les Kanaks, on a le droit à quelque chose.
Emmanuel, c'est un débat. Pourquoi emmerder une personne qui est là depuis 10 ans, qui travaille, qui ses enfants sont scolarisés, il est dans une démarche d'intégration, ses enfants vont être intégrés via l'école. Pourquoi l'emmerder lui alors qu'à côté, on n'arrive pas à expulser, par exemple, des familles étrangères délinquantes qui parfois occupent des logements sociaux, on n'arrive pas à les expulser. Alors que là, c'est un vrai trouble à l'ordre, un vrai trouble à l'ordre public.
Oui, voilà. Mais on
va peut-être faire preuve d'un peu de discernement par rapport.
On ne gère pas,
contrairement à un film où il faut des personnages individualisés pour qu'il y ait un filigrane dans la justice. On ne gère pas une politique en prenant des cas individuels, en sortant les violents.
On peut faire preuve de bon sens.
Mais tu fais l'inverse. Justement, tu es en train de parler en généralité. Moi, je te dis que justement, malheureusement,
c'est la généralité. C'est le problème structurel d'une immigration incontrôlée.
Non, parce que là, ce que vient dire Sandrine, c'est que la personne qu'elle défend, elle travaille, donc ça veut dire qu'elle répond aussi à un besoin de main d'œuvre.
Est-ce que le nombre de dossiers augmente? Justement, ton cabinet ou pas?
Ah oui, et encore plus là par rapport à la guerre en Iran. Là, on a beaucoup de demandes de réfugiés, de demandeurs d'asile, etc., par rapport à ce qui se passe en
d'accord,
Iran.
D'accord, qui n'est même donc, pas coup, pris en compte encore dans les chiffres que l'on a là.
Et on en est qu'au début.
On en est qu'au début, oui.
Ce qui veut dire que ce sont des chiffres qui sont quasiment déjà dépassés, quoi, presque.
Certainement.
Johnny Blanc.
En fait, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on repart sur ce sujet-là. Ça veut dire que j'espère que la campagne présidentielle ne tournera pas autour de l'immigration. Donc, très bien, l'extrême gauche et l'extrême droite en ont fait leur fond de commerce. Je pense que le problème de notre pays n'est certainement pas l'immigration, c'en est un, mais c'est pas le problème de notre pays. Je rappelle que les clandestins, ça représente 1% de la population, ce qui est quand même pas non plus quelque chose, c'est pas un envahissement non plus. Et puis en plus, on n'a pas de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout un pataquet sur le clandestin, on doit en avoir à peu près 16 ou 17 000 dans les centres de rétention, on sait qu'on va en libérer 60% qui n'ont rien à faire sur le territoire, qui devraient être expulsés, et on les libère.
Mais on les libère pourquoi? Parce qu'on n'a pas de laissez-passer.
Donc ça sert à... laissez-passer consulaire pour qu'ils rentrent dans leur pays.
Donc ça sert à quoi d'en parler, parce que vu qu'on est impuissant, parce que dans ton propre pays, tu ne peux pas décider de qui tu gardes et de qui tu ne gardes pas. Donc arrêtons d'en parler, ça ne sert à rien. Oui. Il y a un moment, je suis désolé, et le problème de notre pays, je le redis, c'est certainement pas l'immigration qui fait que le pays de la France est, la France est dans cet état-là.
T'es pas d'accord, je suis désolé. Emmanuel.
On peut pas dire c'est pas tout blanc ou tout noir, mais j'émets une grosse nuance sur ce que vient de dire notre ami Johnny. Ça dépend où tu vis, Johnny. Évidemment, dans les Deux-Sèvres ou au fin fond de la Vendée, peut-être. Mais il y a plein de zones où la pression migratoire incontrôlée est majoritaire.
Oui, non, mais sur certains quartiers de certaines grandes villes, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que ça, à l'état de la nation, le problème de notre état aujourd'hui, que ce soit financier ou quoi que ce soit, n'est pas dû à l'immigration. Je suis désolé.
Alors c'est la thèse, par exemple, d'Éric Zemmour. Mais je crois effectivement qu'il est trop centré là-dessus.
On a Sam qui veut intervenir. Sam qui est dans les Vosges, qu'on connaît, qui est artisan dans le bâtiment. Bonjour Sam.
Bonjour les GG.
Salut Sam, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce chiffre 1 million? L'état dépassé, ça vous inquiète ou pas?
Bah, moi en fait, le débat sur l'immigration, attention les gens de gauche, hein, faites convulsionnez pas, on va y aller. Le gros problème en fait, c'est que l'immigration en France, j'ai l'impression que c'est l'État est dépassé dans le sens, il est, comment vous dire, par exemple, je vais vous dire un cas concret. Donc nous ici, on a beaucoup d'Albanais hein, dans les Vosges. Moi j'ai deux Albanais, ça faisait 4 ans qu'ils étaient là, que j'ai rencontré au café, etc. Des mecs qui savaient bosser, des façadiers en France, il y en a plus des masses, hein, regardez sur les échafaudages, c'est souvent des gens des pays de l'Est. Donc moi j'ai fait des démarches pour pouvoir leur faire un contrat de travail et qu'ils restent chez nous. Ils sont mangés nos QTF. J'ai essayé de tout faire pour qu'ils puissent rester. Et non, le préfet, on fait ça le samedi, les expulsions. Comme ça, on est sûr qu'on peut joindre personne pour faire sauter la procédure. Donc, on avait fait appel de la décision de l'OQTF. Ça n'a pas empêché qu'un samedi, on vienne défoncer les portes. On a défoncé les portes, hein. On les a arrêtés comme si c'était des criminels. et on les a expulsés. Je me suis pointé au commissariat de police pour leur dire je suis en train de faire leur dossier là pour les garder. On a besoin de façadiers, on a besoin de gens qui veulent bosser dans le bâtiment. Et on nous a dit texto, c'est pas nous, c'est la préfecture, mais vous pouvez pas les appeler, c'est samedi. C'est con, hein, quand même, c'est con. Et là, par contre, on sait les expulser. Donc, les gens qui travaillent, qui s'intègrent, qui font pas d'histoire, on veut pas les garder. Par contre, la délinquance, l'immigration, où on est un peu faible avec les pays d'origine, eh ben, on ne dit rien. Genre, je ne vise pas une certaine population plus qu'une autre. Moi, ce que je dis, pourquoi l'Albanie, qui est en procédure d'adhésion à l'Union européenne depuis 10 ans, leurs ressortissants, on les expulse à la vitesse de l'éclair. 3 mois entre l'OQTF et l'expulsion. Alors là, ils ont été forts parce que c'est des Albanais. Ils font pas d'histoire. Ils crient pas au racisme. Voilà. Et des gens comme ça, où on a besoin, qui travaillent ici, qui s'intègrent ici, qui parlent très bien le français, qui ont une petite amie ici, qui ont eu un enfant ici, eh ben, eux, on les expulse, mais minu militari. Hein. Et ça, c'est.
Mais
un
ça veut dire, Sam, vous ne pourriez pas faire autrement sans l'immigration, Sam, très franchement?
Eh ben, dans certains. En fait, si vous préférez, pourquoi on a besoin d'une immigration en France? Et c'est pour ça que le débat sur l'immigration, enfin, il me rend un peu dingue. On en est arrivé là parce qu'on a eu des politiques sur l'éducation, l'orientation qui n'ont pas été menées. On a dévalorisé les filières d'apprentissage. Moi, le CFA d'Arche, il tourne à moitié de ses capacités parce qu'il n'y a plus de jeunes qui veulent aller en apprentissage. Donc oui, force est de constater que hors métier du technique, plombier, chauffagiste, électricien, où ça reste ça reste des Français. Enfin, c'est un peu un stéréotype de dire ça. C'est pas une histoire de couleur ou enfin ça reste des gens on va dire assez français. Vous prenez tous les métiers on va dire plaquiste, carreleur, façadier, enfin regardez tous les gens sur les échafaudages dans la rue. C'est des gens des pays de l'Est. Les carreleurs, c'est beaucoup de Turcs, les maçons, c'était beaucoup les Portugais. Donc moi je suis 6 immigrés portugais, donc on a toujours le stéréotype du maçon portugais. Maintenant c'est beaucoup les Turcs de la maçonnerie. Mais c'est pas grave, mais c'est un choix qu'on a fait et on continue, on massacre l'apprentissage à longueur d'année et après on vient dire on n'a plus de main d'œuvre.
Mais oui, mais fait, Sam, le problème c'est que l'immigration de travail, moi effectivement on en a besoin parce qu'il y a des secteurs d'activité, on n'arrive pas à embaucher. Mais c'est pas le problème. En fait, l'immigration de travail, c'est pas celle qui pose un problème en France. Les filières d'immigration, c'est pas le travail. La première filière d'immigration, c'est le regroupement familial.
Bien sûr.
Ensuite, c'est les étudiants. Et en troisième, n'arrive que le travail. D'ailleurs, le taux de chômage est plus important dans la population étrangère que dans la population française en France. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui sont en France et qui ne sont pas au travail, contrairement à une idée reçue, puisqu'on nous explique que tous les étrangers viennent pour travailler et trouvent un travail. Non. Donc, il faut plutôt s'il y a une politique un peu plus dure à avoir, agir contre ceux qui effectivement ne travaillent pas, plutôt que d'embêter, comme le dit Sandrine, quelqu'un qui a depuis 10 ans, qui travaille, qui a ses enfants, qui se construit une vie chez nous. Quoi,
parce que là où je vais aller dans le sens de Sandrine, c'est évidemment ceux qui travaillent, on les identifie plus facilement.
Bah oui.
C'est plus facile de faire un redressement fiscal à Johnny ou à moi-même qu'à un clandestin.
Je peux te citer un cas très concret. Mon frère avait employé pour apprenti un jeune qui venait du Nigeria. Il a fait tout son apprentissage, il a passé ses examens, il a eu tous ses examens. Et mon frère Jean voulait le garder comme salarié. On lui a dit, vous le licenciez, vous publiez une offre d'emploi. Si vous ne trouvez personne pour occuper le poste, vous pourrez l'embaucher.
Voilà.
Non mais sans déconner,
oui,
t'as formé quelqu'un pendant 3 ans, oui, et faut que tu le dégages pour reprendre quelqu'un qui ne connaît rien.
C'est un cas que j'ai connu aussi.
Voilà. Et ça, c'est complètement aberrant.
Je remercie Sam d'avoir été avec nous. Sam, merci d'avoir été dans les GG. À bientôt.
Merci.
Et on verra si le cas de vos deux Albanais arrive à se régler. Ils sont partis.
Ils ont été expulsés, ils ont cassé la porte à 6h du matin. C'était des voyous, hein, vous comprenez. C'est facile.
Voilà. Ah ouais, d'accord.
Oui, c'est avec les faibles, les faibles avec les forts.
Avec les enfants, tout le monde a été expulsé?
Eh ben non, parce que bah non, on peut pas expulser les enfants. Non,
normalement oui, s'ils sont scolarisés, on peut pas.
Mais par contre, le mec qui ramenait l'argent à la maison, bah on l'expulse comme voilà, ça. Bah donc, eux, ils sont
une femme avec des enfants.
Oui, bon alors après, pardon ça, mais
donc derrière, il va y avoir un truc social.
Non, mais on peut rentrer dans le côté technique, c'est que bon, ok, il a une obligation de quitter le territoire, on l'emmène à l'aéroport, on l'emmène dans l'avion, il refuse de monter, et puis bah du coup, il part au centre de rétention. Donc
je vois,
voilà, après il y a des stratégies aussi.
On reconnaît que tout ça, c'est beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'énergie, des fonctionnaires qui sont employés à ça.
Bon, et des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratifs
qui sont saturés. Plein craqués, oui. Voilà.
Ils font un système à la canadienne, tout simplement. Voilà, ça veut dire que moi j'ai des amis au Canada,
et
une fois que le poste
n'est
plus en tension, il déchire, ou alors, au moindre délit, il déchire le papier et dépose à l'aéroport. On aurait un système comme ça, ça marcherait nettement mieux. Le mec qui vient qui bosse, on le garde, le mec qui vient qui profite, on le dégage. Enfin, c'est quand même assez simple.
Mais là, vous voyez, Sam, la manière dont le dossier va être présenté, il va être instrumentalisé politiquement. Et vous allez en entendre parler toute la semaine. C'est-à-dire que cette enquête qui est révélée par Le Figaro et ses chiffres, vous allez voir que du côté de la gauche ou de la France insoumise, on va dire, mais ça, c'est la chance de la France. Si nous arrivons au pouvoir, ils seront tous régularisés. Et du côté du Rassemblement national, on va vous dire, voyez, la submersion est en marche, la preuve en chiffres, et on fera pas la distinction. Effectivement, on parlera de la masse, comme vous pouvez la faire, vous, Sam, avec ceux dont on a effectivement besoin aujourd'hui dans le BTP sinon le secteur ne tourne pas, dans la restauration sinon le secteur ne tourne pas, dans les services en particulier le nettoyage industriel sinon les secteurs ne tournent pas. Merci à Sam d'avoir
été avec... On est bien content dans tous nos hôpitaux que les chirurgiens soient tous étrangers, parce que moi quand je vais à l'hôpital aujourd'hui je vois plus un médecin français qui me soigne de quoi que ce soit. Donc là par contre ça nous dérange pas que ce soit des étrangers. C'est pas gênant.
Mais peut-être qu'on en a besoin aussi dans leur pays d'origine aussi, parce qu'ils font leur vie.
Mais non, mais ça, par contre, ça, on s'en fout en France. Je vais dire un truc. Qu'on prenne tous les médecins roumains et que le plus haut qualifié dans une ambulance quand un accident en Roumanie, c'est une infirmière, ça nous dérange pas.
Et non, aussi parce qu'on
nous, on a un médecin, on est content.
Et on va verser de l'argent à la Roumanie comme aide au développement.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est formidable.
On marche sur la tête. Nombre de clandestins estimé à 1 million. Est-ce que vous pensez que l'État est dépassé? Vous mettez oui, clairement, à plus de 98%. Dans un instant, un coup de gueule, et vous allez sûrement le partager. Le coup de gueule, celui de notre ami Johnny Blanc. Il est en plein cas de transmission d'entreprise. Et alors, c'est un dossier des échos qu'on va vous résumer. Aujourd'hui, c'est peut-être une catastrophe économique annoncée. Le problème de la transmission d'entreprise. 3 millions d'emplois menacés. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Il est 10h15.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, avec le retour du fromager des Deux-Sèvres, Johnny Blanc, un historique des GG. Nous sommes avec Sandrine Pégan, avocate, et avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. On va parler transmission d'entreprise, justement. Si l'on se fie à un article de nos confrères Les Échos, ça va être le défi de la décennie. L'enjeu économique pour la France sont des millions d'emplois qui se retrouvent menacés par toute une génération de chefs d'entreprise qui va partir à la retraite. Une génération qui aujourd'hui représente quasiment 500 000 dirigeants. Oui. C'est le tissu des PME et des TPE.
C'est 500 000 patrons boomers qui vont partir dans les 10 ans à venir à la retraite. Et donc, c'est autant d'entreprises qu'il va falloir transmettre. Ça concerne 3 millions d'emplois. Alors, il va falloir réussir à passer le relais à une nouvelle génération. Et en France, c'est pas simple parce qu'il y a la fiscalité, il y a l'administration. Alors, Serge Papin, le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, a présenté un plan qui vise justement à faciliter la reprise d'entreprise quand un dirigeant part à la retraite. Et pour lui, c'est une grande cause économique. Alors, on a un cas précis avec Johnny Blanc et tu voulais pousser un coup de gueule là-dessus.
Ah. Oui, parce que j'ai pas vu son plan, mais je suis toujours inquiet quand je vois la politique
entre l'annonce du plan
et l'effectivité,
il va y avoir un petit délai.
Moi, je dis qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre un plan en place, il y a juste à être pragmatique et faire les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, je vais dire un truc, dans les entreprises dont on parle, ce sont souvent des entreprises familiales. Alors, il y a une partie des entrepreneurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour décourager leurs enfants de reprendre la boîte parce que ils en ont tellement bavé qu'ils ont surtout pas envie de ça pour leurs enfants. Et pour ceux qui voudraient quand même reprendre l'entreprise, quand tu vois le parcours que c'est, quand tu arrives à reprendre la boîte de tes parents, en général, tu as autour de la trentaine d'années. Quand tu as une trentaine d'années en France, je vais te dire, tu n'arrives pas à la banque avec 1 million d'euros sur ton compte, tu arrives ou tu n'as rien. Voilà. Et le banquier commence par te dire, vous savez, reprise de part de société, c'est sur 7 ans. Quelle est la loi, quelle est la règle qui fixe ça? C'est encore un truc que vous avez décidé vous-même. C'est juste pas faisable. Ils te disent oui, mais c'est pas un investissement productif, c'est un investissement qu'il faut avaler alors que ça produit rien. Je suis désolé, t'as un outil de production en place, ça fait partie de ça. Donc quelque part sur 7 ans, c'est juste envoyer les gens en casse-pipe quand t'as pas trop d'apport. Ça veut dire que tu te retrouves avec des annuités à des 400-500 000 euros l'année et que tu arrives pas à faire face et que tu t'enterres. Alors on te dit, vous avez une autre solution pour transmettre, c'est le Dutreil. Oui, on oublie juste un petit détail.
Le Dutreil.
Le Dutreil, c'est le pacte Dutreil, c'est une donation. Alors certes, t'es exonéré à 75% des impôts et tout ce que tu veux, sauf que ça porte bien son nom, c'est une donation. Mais toi, chef d'entreprise, tu pars à la retraite avec une retraite à 1400 balles, d'accord? Donc si tu donnes ta boîte, tu vis de quoi quand t'es à la retraite derrière? Donc ça, tu peux faire un Dutreil sur une partie, mais pas sur tout. Et si tu vends ta boîte complètement en disant, bon ok, je vends ma boîte à mes enfants, on va t'en taxer au minimum 33%. Et comme si ça suffisait pas, on a décidé de créer la CEHR, contribution exceptionnelle sur les revenus. Et comme ça devait pas encore suffire l'année après, on a créé la CDEHR, contribution différentielle sur le revenu, de façon à ce que, de toute façon, faut que tu passes à la caisse. Et moi, je dis bien que quand je vends ma boîte, je veux bien payer tous ces impôts. Mais les 15 ans où j'ai créé ma boîte, les 15 premières années où j'ai pas pris de salaire, je veux qu'on me les réintègre. Tu connais quelqu'un qui a bossé 15 ans sans salaire, toi, puis qui dit rien? Eh ben, on te dit, ah non, non, monsieur, c'est pas comme ça, ça marche que dans un sens. Donc aujourd'hui, vous payez. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, tes enfants ont pas d'apport. Donc pour financer, vous allez à la banque te dit, c'est hors de question, ce sera sur 7 ans. C'est infaisable.
Donc il faudrait changer, alors déjà, il faudrait changer cette durée.
Mais cette durée, cette loi, elle n'existe pas.
C'est quoi, c'est par les banquiers. C'est une convention bancaire.
Et après, le banquier te dit, attention, on vous suit, on suit vos enfants à une condition. Vous prenez une garantie BPI France. Ah, quelle belle affaire. BPI France, merci Ségolène de nous avoir créé cette espèce de truc qui sert à rien, qui te finance plus cher que les banques, parce que les banques empruntent l'argent sur les marchés. Non, la BPI emprunte l'argent auprès de l'État. L'État est tellement bien noté que je vais dire, quand tu vois les taux d'emprunt par rapport à la banque, c'est juste une catastrophe. Et le pire, c'est qu'une garantie, par exemple, je sais pas, t'empruntes 2 millions d'euros pour reprendre une boîte, la garantie BPI France va te coûter 150 000 balles. Ah bon ? 150 000 euros, qui ça va rien. C'est quand tu prends 150 000 euros, tu les jettes à la poubelle, quoi. Et il y a un moment, c'est ça, et les entreprises à entreprises. Mais donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu trouves un mec qui a de l'argent, puis qui te rachète ta boîte,
alors, elle est plus familiale. Emmanuel voulait réagir.
Oui, alors c'est passionnant, parce que moi, c'est mes 25 dernières années de ma vie, c'est ça, puisque j'ai repris 4 entreprises successivement, comparables à la tienne, c'est-à-dire des PME de 50 à 80 salariés. Alors, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, dans des métiers qu'on ne connaît pas, c'est une aventure humaine extraordinaire. Quand on reprend une entreprise, en gros, on en étudie 15 ou 20. Ouais. Parfois on est très avancé et ça capote.
Tout à fait.
Parfois c'est un truc auquel on croit pas du tout, qui est à fuir, et finalement c'est la meilleure affaire de votre vie au final, parce qu'on arrive à s'entendre. Alors effectivement, tout ce que tu as dit est rigoureusement exact et issu du terrain. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est une pratique des banques pour ce qu'on appelle le LBO, qui vient des États-Unis, leverage buyout. En fait, il faut générer des résultats, des bénéfices qui vont permettre, en étant attribué à peu près aux 2/3 des bénéfices annuels, pour rembourser le prêt d'acquisition initial. Prêt d'acquisition, tu l'as dit, qui doit être complété par un apport personnel. Et quant à ce truc de BPI, tu me fais tellement plaisir. À BPI, je vais pas être vulgaire et j'attaque personne en particulier, mais c'est vraiment des cons. Parce que c'est très cher.
Au moins, c'est réglé.
C'est très cher. En fait, c'est une garantie qu'on souscrit. Eux, ils ont rien à faire. C'est des fonctionnaires. Et cette garantie, elle est utile à la banque, parce que si la reprise capote, ils sont remboursés par la BPI sur toute ou partie du prêt. Mais après, on est emberlificoté avec la BPI. Si vous voulez vendre des actions, changer des trucs, faut l'autorisation de la BPI. Ces types-là, ils se prennent pour des princes, ils jouent les importants, alors que c'est des scribouillards qui connaissent strictement rien à rien, si ce n'est les dossiers avec lesquels ils nous emmerdent. Et effectivement, c'est un parcours du combattant de reprendre une entreprise, une aventure extraordinaire. Mais si on n'a pas de fonds, tout ça, c'est très difficile. Donc, moi, j'ai fait 4 fois successivement.
Le problème de la fiscalité sur la vente d'entreprise, c'est juste pas possible. Comment on peut venir me piquer 40% de mon travail de toute ma vie en un seul coup? Et donc, ça veut dire que, moi, je voulais faire pour faciliter par avant, comme si tu vends tes enfants, tu dis, je vais leur faire un crédit vendeur, ça facilite. Mais le crédit vendeur est un moyen de paiement. Donc, on considère que l'argent, tu l'as. Oui. Donc, tu dois payer l'impôt sur les 1,5 million que tu vas recevoir que dans 10 ans. Faut que tu payes un impôt tout de suite dessus.
Alors, est-ce qu'on peut donner la parole à Maître Pégan?
Est-ce que t'as des dossiers comme ça? Est-ce que ça te parle ou pas?
Alors c'est plutôt mon associé, parce que moi je fais droit PL, droit de la famille, mais moi je suis en train de me dire qu'à chaque fois on découvre toujours le problème tardivement, tu vois. Oui. Donc là, et
quand il y a urgence, quoi.
Et là, tout la course d'image, c'est ça. Ça fait longtemps que ça existe.
Oui. Et donc, du coup, c'est un vrai réflexe français. Ça, à chaque fois qu'on découvre un problème, on sort un plan national, grande cause, des comités Théodule qui servent strictement à rien. Moi, je vois, en tout cas, par les dossiers de mon associé qui lui fait du droit fiscal et droit des sociétés, qu'en fait, la transmission, elle révèle vraiment une crise naturelle et une crise culturelle. Parce que c'est pas comme en Italie où la transmission avec les enfants, etc.
Elle reste familiale en Italie, mais ça coûte beaucoup moins cher que chez nous.
Et en Allemagne, je crois.
Mais parce que justement, voilà, c'est profondément ancré dans leur culture en Italie. Nous, en France, il y a un vrai problème culturellement parlant. Oui. Parce que les enfants n'ont plus envie de reprendre les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est des charges mentales énormes.
Ils ont vu comment tu as vécu toute ta vie, ils n'ont pas envie de ça.
Exactement. Alors, aujourd'hui, la vraie question, c'est comment.
Mais par contre, moi, je
ne
doute pas des volontés de M. Papin de faire un programme, mais je rappelle quand même à M. Papin, qui est au gouvernement, que la loi de finances de 2026, qui est sortie là, en 2026, a encore modifié plein de trucs sur le pacte Dutreil, parce qu'ils essaient de le dégager.
Oui, ils veulent le rogner, le pacte Dutreil.
après ils veulent le dégager.
Ils disent que ça coûte trop cher.
Et puis derrière, sur les apports-cessions, parce que tu as une façon de ne pas payer ta plus-value tout de suite, c'est ce qu'on appelle un apport-cession. Tu crées une holding où tu apportes toutes les parts de ta société et cette société les vend, le vend à la personne qui reprend l'entreprise. Et tant que tu ne sors pas l'argent de ta holding, tu as le report de plus-value. Mais ce qu'on oublie de dire,
c'est qu'il faut,
il faut que tu emploies 70% de cet argent dans le monde de l'entreprise.
Et très rapidement.
Et pendant 7 ans,
si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas le faire. J'ajoute quand même un mot pour nos auditeurs. La reprise, c'est quand même quelque chose à favoriser parce que c'est plus facile que la création dans la mesure où quand vous reprenez une entreprise, que ça soit une toute petite entreprise ou une PME, vous avez déjà une activité, vous avez déjà des clients, vous avez déjà une structure. Donc c'est une aventure extraordinaire. Oui, mais il faut faire ça avec des gens honnêtes aussi. En fait.
Est-ce que ça ne décourage pas les enfants? Parce que déjà, les enfants ont vu leur père ou leur mère trimer, passer tous les week-ends à bosser, etc. Donc ils n'ont pas forcément envie de ces nouvelles générations, n'ont pas vraiment envie de ça.
Les modes de vie ont changé.
Les difficultés que tu viens d'écrire, est-ce que effectivement c'est ça pas le drame? Parce que j'entendais Serge Papin lorsqu'il a présenté son plan nous faire tout un laïus sur transmettre une entreprise, c'est formidable, c'est une aventure familiale. Bon bref, ça c'est des grands mots, mais est-ce que ça va pas dégoûter plutôt les enfants de continuer?
Bien sûr, c'est hyper compliqué. En plus, quand tu vois la conjoncture actuelle, moi pour donner un exemple aujourd'hui dans notre boulot de vire de fromager. On avait, quand t'as un surstock, un produit, je dis n'importe quoi, que tu vendais 3 euros, tu le dégageais à 2,40 euros, t'arrives à le dégager. Aujourd'hui, même à 1,50 euros, personne n'en veut. C'est-à-dire que même à moins 50%, personne n'en veut. Il y a tellement de cam sur le marché qu'il n'y a plus rien qui se vend. Et donc, ça devient quand même compliqué. Et quand t'es en période de rachat d'une entreprise à ce moment-là, tu te dis, attends, il faut quand même que mes dividendes remontent pour payer mes emprunts, ça va être un peu chaud patate, quoi. Donc, c'est compliqué, très compliqué.
Très compliqué.
Il y a une crise de la vocation entrepreneuriale en France, hein. Plus personne veut, moi, en tout cas les enfants.
Après,
quand justement,
oui,
c'est ce que disait Olivier, quand
même
tu vois
sujet,
les parents qui ont trimé, les modes de vie ont changé, t'as la pression juridique, t'as la pression fiscale. Qu'est-ce que t'as envie
je veux
de
faire? Je veux pas attaquer critiquer BPI France, mais je veux pas critiquer les avocats parce que j'en ai deux avec qui je travaille en ce moment. Mais il y a un moment là, pareil, quand on voit les honoraires d'avocats aujourd'hui sur ce genre de dossier, pour faire un Dutreil, on te prend 25 000 balles. Pour te faire un truc à côté, des statuts de société, on te prend 25 000 balles.
Johnny, on va remettre les choses, je vais remettre l'église au milieu du village. C'est pas parce que je vais percevoir 25 000 euros de ta part au titre d'honoraire que ça va rentrer dans ma poche. Je donne plus de la moitié à l'État. Hein.
Oui, d'accord.
Et après, j'ai toutes mes charges.
Je suis d'accord
donc,
avec toi, mais
les avocats sont parce qu'on prend beaucoup d'honoraires. Il y a un vrai travail derrière.
Je suis d'accord avec toi, mais si on ramène son taux horaire, moi je connais personne qui travaille à ce moment-là.
Sauf que le taux horaire, encore une fois, c'est pas parce que tu vas le payer que ça va me rendre.
Un petit point complémentaire. Dans une reprise aussi, il faut essayer d'associer les personnes clés dans l'entreprise, les sachants, pour former une équipe. C'est pas simplement un actionnaire qui arrive et qui garde sa grosse bagnole. Il faut savoir que dans les cadres d'entreprise virés de grands groupes, ont repris des sociétés. En gros, la statistique depuis 25 ans, 2 sur 3 se cassent la gueule.
C'était le coup de gueule de l'ami Johnny Blanc sur la transmission d'entreprise, un vrai défi économique pour le gouvernement. 500 000 dirigeants qui vont partir à la retraite, 3 millions d'emplois dans une économie en France qui est composée à plus de 95% de petites et moyennes entreprises et d'entreprises à taille intermédiaire qui sont souvent d'ailleurs familiales. Un défi pour le gouvernement, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il ne se passera rien. Rien d'ici l'élection présidentielle 2027.
Il ne se passe jamais rien.
Le nombre de lois ou de choses comme ça qui sont travaillées, et en plus, il n'y a jamais les décrets d'application qui sont publiés.
Ça,
aussi.
C'est un mal français, c'est qu'on vous parle d'une loi. Le Premier ministre ou le ministre vient dire on va faire ça. Ça y est, c'est fait. Et en fait, la loi ne passe jamais parce que le décret d'application n'est pas signé.
Dans un instant. En revanche, là où on est très fort, c'est pour mettre en place des nouvelles normes. Et alors là, à Paris, le maire veut avoir 70 quartiers piétons supplémentaires. Mais quand on vous dit quartier piéton, c'est pas sans les voitures, c'est aussi sans les vélos. Alors, est-ce que c'est l'avenir?
C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, alors.
C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules. On parle de Paris, mais ça peut être dans toutes les villes. Il est 11h25, restez avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Je regarde toutes les réactions qui sont arrivées là à propos justement de cette transmission d'entreprise. Des réactions qui sont arrivées sur le WhatsApp des GG. Alors ça vous fait pas mal réagir. Il y a Jérémy qui est en train de nous dire le mal français, les amis, le carcan administratif et le carcan fiscal. Ne vous étonnez pas que ce pays ne soit jamais en croissance. J'ai aussi Oscar qui lui s'insurge en disant moi j'ai aussi vu des entreprises familiales bien revendues, bien se gaver avec des salariés qui eux étaient mal payés. Faut pas oublier ça. C'est ce que m'écrit Oscar sur internet, rmc.fr. J'ai Christophe qui, lui, se demande simplement aujourd'hui, en quoi veut-on transformer la France ? Il dit bon nombre de ces entreprises familiales et dans des départements sont des entreprises aussi qui font vivre des localités, qui font vivre des villes, qui font vivre des bourgs, qui font vivre des villages. Bon nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est comme les casernes, m'écrit-il sur notre groupe WhatsApp, ont fermé et à la fin de ces entreprises familiales et des casernes sont des villages entiers qui sont morts.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous venez prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules, bien sûr, en direct sur RMC, la radio RMC Story, la télé. Emmanuel De Villiers est avec nous. Le retour de notre historique GG, Johnny Blanc, et puis Sandrine Pégan nous accompagne aujourd'hui, l'avocate. 11h-20, on va regarder la manière dont nos villes se transforment ou vont se transformer.
Au Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Dans les années 60-70, on a fait la place à la voiture. À la fin des années 70, début 80, on a vu apparaître dans les villes les premières rues piétonnes, ce qui a été une révolution. Ensuite, on a enlevé une partie des voitures pour faire non seulement des rues piétonnes, mais des quartiers uniquement pour les vélos. Et puis alors là, maintenant, ce sont les vélos qui commencent à devenir indésirables. Vous allez faire connaissance avec l'aire piétonne dite piétataire.
Oui, alors déjà, le terme de ces nouveaux quartiers que la mairie de Paris veut faire fleurir, c'est cœur piéton. C'est joli, cœur piéton. Et dans ces cœurs piétons, on ne veut pas de cyclistes à vélo. Alors si, on veut les cyclistes, mais piétataire. Alors, c'est pas Paris qui invente ça, parce qu'il y a déjà plusieurs villes, j'ai vérifié, qui mettent en place effectivement des zones où il y a obligation pour le cycliste de mettre piétataire avec des panneaux. Et des amendes si tu le fais pas. Saint-Brieuc, par exemple, a interdit carrément le vélo en centre-ville. C'est vrai que c'est assez amusant parce que la bagarre, c'était d'exclure les voitures des centres-villes. Maintenant, il faut exclure les vélos. C'est peut-être ça la conception du vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est chacun chez soi. Mais on n'est plus ensemble, là. Et donc, maintenant, le cycliste devient celui qu'il faut traquer. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il faut reconnaître que quand on est piéton à Paris, les cyclistes, c'est devenu un danger souvent parce qu'ils ne... respecte pas le code de la route. Quand t'as des enfants, t'es quand même toujours inquiet parce que tu te dis il va se faire renverser par un cycliste qui arrive à toute berzingue. Les livreurs, eux, comme ils ont des cadences infernales, alors là, ils ont des vélos électriques débridés et donc ils roulent parfois jusqu'à 40-50 km/h sur des trottoirs ou des endroits qui peuvent être dangereux. Donc est-ce qu'on est obligé d'en passer par là et d'interdire maintenant dans les quartiers piétons les vélos?
Qu'est-ce que vous en dites ?
Ben, c'est très surprenant parce que on pensait justement qu'il y avait une tendance pour le vélo universel, pacifique et sereine. Mais finalement, les révolutionnaires qui ont poussé au vélo tous ces écolos se font toujours absorber par leur propre révolution. En même temps, si on réfléchit de manière rationnelle et honnête, il y a sans doute un besoin dans certains endroits d'éviter les accidents. Parce que
un peu de discipline, quoi.
Les circulations sont quand même dangereuses. Je soulignerai, alors, ça va donner un côté franchouillard provincial, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le vélo électrique à Paris, grâce à un de mes enfants. C'est quand même c'est extraordinaire. Quand c'est il rare. Fait beau, qu'on traverse Paris.
Ah, ça, c'était quand est-ce qu'il a fait beau? Faut que tu nous rappelles.
Alors, attendez, si, demain, en juin de l'année dernière, il a fait beau.
Oui, mais voilà, là, on est.
C'est deux jours. C'est vraiment. Je l'ai fait deux jours et deux nuits. C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de visiter des beaux endroits dans le monde et en France. Ça fait partie des trucs les plus spectaculaires, même si on est dans un univers complètement urbain et minéral, avec les monuments historiques, c'est extrêmement spectaculaire. Mais le corollaire, c'est que c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'on croise des gens dans... Alors deux nuits, il y a intérêt à être à jeun, parce que là, c'est Woodstock.
Il faut mieux même...
Ça part dans tous les sens et on peut avoir un très grave accident en collision.
Non mais c'est amusant, c'est que la mairie de Paris, par exemple, a favorisé à fond le vélo. Il y avait même une sorte de... Le vélo est prioritaire surtout. Il y a par exemple des voies de bus qui ont été supprimées pour faire des pistes cyclables. Donc d'ailleurs, les usagers des bus se plaignent en disant maintenant c'est plus compliqué de prendre le bus à Paris. Et puis débordé par la situation, maintenant il va falloir faire des restrictions pour les vélos. C'est vrai que c'est assez amusant. Et donc et de la répression, c'est-à-dire que la mairie de Paris va être obligée de faire la répression contre les cyclistes qui sont avant tout ces électeurs.
Tu circules comment, Sandrine, toi, du coup, pour te déplacer de rendez-vous en rendez-vous?
Moi, je circule essentiellement en voiture. Et sincèrement, circuler dans Paris, je vais parler que de Paris, puisque c'est vraiment devenu une bataille. Alors, en plus, on sait qu'Hidalgo, elle a transformé Paris en guérilla entre opposition, vélo, piéton, voiture. Mais sincèrement, même quand je prends les taxis et je discute avec les taxis, ils me disent on n'en peut plus des vélos. On n'en peut plus. Et moi, je serais pour la suppression totale, l'éradication des vélos dans la capitale.
Carrément.
Ah, mais je n'en peux plus. T'es en train de conduire. Alors, il ne respecte rien. Il y a une espèce de tolérance. Donc, du coup, pardon, mais sinon, ils devraient respecter le code de la route et ça serait une amende de 135 euros. Ils ne le font pas. Ils sont là. Ils se croient tout permis. Ils pensent qu'ils sont prioritaires et c'est terriblement, d'une part, dangereux. Et c'est agaçant parce que t'es là, en fait.
Oui, mais la mairie de Paris vient de s'en rendre compte, en fait. Ils ont créé un monstre.
Encore trop
et donc là, ils veulent revenir en arrière en disant, non, on va fixer des limites.
Alors, question un peu provocatrice, mais oui. Tu pourrais pas circuler à vélo avec devant le panier et puis tu mets tes dossiers dedans.
D'accord, et les vols, t'en fais quoi? Il y a des vols quand dans le panier t'es là, t'es en train de regarder ton téléphone quand t'es bien évidemment pas en train de conduire. On ne conduit pas avec le téléphone, mais tu peux très bien avoir des vols. Moi en tout cas, ça serait ma peur. Et je pense même d'ailleurs au fait que. T'imagines, j'ai ma robe d'avocat, j'ai mon sac à main, j'ai mes chaussures, puisque du coup je peux pas circuler à vélo avec des talons, donc je serai forcément en basket, donc il faut que je change les chaussures quand j'arrive au tribunal. Je respecte les institutions.
Dans basket, c'est l'un ou l'autre.
Je plaide en basket, non merci. Moi pour le coup, je suis pour le respect des institutions. Mais en plus j'ai mon dossier et les dossiers sont volumineux, donc je peux pas moi avec un simple vélo. Ouais, et puis la pluie, donc t'arrives comment? T'arrives complètement débraillé. Bonjour Monsieur le Président, t'es là.
Non mais un vélo électrique. L'avantage du vélo électrique, c'est que tu fais moins d'efforts qu'un vélo traditionnel, donc t'es pas en sueur.
Romain va en parler avec nous. Romain, il est auto-entrepreneur, il est à Paris, Paris Intramuros. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tout le monde.
Donc voici venu le temps des aires piétonnes, pied-à-terre obligatoires et sans vélo. Alors le vélo ou la trottinette à côté, qu'est-ce que vous en dites?
Ouais, bah en fait il y a plusieurs choses. Effectivement, ils ont créé des monstres et c'est une frustration terrible parce que moi par exemple je roule en scooter thermique. Donc je dois faire partie des monstres d'extrême droite où je mets encore de l'essence dans mon scooter en pleine ville. Et au feu rouge, tous les matins, quand je m'arrête au feu rouge, comme l'essentiel des scooters et les voitures, et que je vois les gens en vélo cargo avec leurs deux gamins de 3 ans qui grillent les feux rouges, mais à fond, et moi, je suis arrêté comme un con, mais je me dis, mais c'est pas possible. On a créé des monstres. Et la chose un petit peu plus grave, à force de créer des zones piétons, en tout cas interdire les voitures et les scooters, c'est les commerces. C'est eux qui en souffrent le plus. Ça, moi, j'ai eu un commerce. Ça. Pendant très longtemps, dans le 12e arrondissement, je vendais des scooters, justement. Et un jour, la mairie de Paris a décidé d'installer une vélorue devant le commerce. Bon, bah résultat, on a fermé 6 mois après. Parce qu'avant, on avait des gens de banlieue qui venaient passer la journée.
La vélorue, c'est une rue uniquement pour les vélos.
Uniquement pour les vélos. Et donc, ça crée uniquement la fermeture des commerces.
Ah oui.
Et donc, c'est très grave. Et le maire de Paris, il peut avoir des idées de végétaliser, de faire des zones...
Les fameuses jungles urbaines.
Ça crée de la misère parce que ça crée de la fermeture des commerces. Donc ça crée des gens qui vont se retrouver au chômage. C'est grave de faire fermer des commerces. Donc pour le maire
oui,
de Paris,
il a raison, Romain. Comme la rue Rivoli.
Ça lui change rien. Lui va continuer à être payé de la même manière pendant tout son mandat. Mais je peux vous dire que moi, le garage a fermé. Et ben du coup, le coiffeur en face, il a plus personne. Le Franprix en bas, il a plus personne. Le restaurant portugais qui était en face, il a plus personne. Et quand on repasse dans cette fameuse véloroue aujourd'hui, tous les commerces sont fermés.
Romain, c'est devenu une ZAD. Vous êtes concessionnaire de scooters, c'est ça?
Il a fermé.
Ouais, mais en fait, ce qui vous a tué, c'est le stationnement payant des scooters, des deux roues.
Ouais, alors, justement, samedi dernier, parce que comme du coup, je me suis retrouvé au chômage alors que j'avais rien demandé, et c'est très dur d'être au chômage, c'est très difficile, attention. Aujourd'hui, je suis obligé de cumuler 3 boulots pour m'en sortir. Et je travaille le week-end. Et samedi dernier, le matin, donc je travaille, le week-end, je fais un peu d'immobilier. Et à 8h30 du matin, je me gare dans le 15e en scooter. Et vous savez, quand je me gare en scooter, je cache un petit peu la plaque parce que j'ai pas envie que la voiture passe pour me mettre. Et pas de bol, quand je suis ressorti de la visite, j'avais 3 policiers municipaux autour de mon scooter.
Et il en faut au moins 3. Vous imaginez, un scooter, c'est dangereux.
Vélo. 90 euros d'amende. 90 euros d'amende pour moi parce que j'avais caché la plaque. Alors, moi, je me casse plus la tête. C'est-à-dire que moi, j'habite le 15e, j'habite à Paris. Moi, le peu d'argent que j'ai pour mes loisirs, je le dépense plus à Paris. Et là, je sais qu'il y a le petit Pierrot qui est là. Le petit Pierrot du Touquet, là. Il est là. Et ben, moi, ce week-end, mon argent, je vais aller le dépenser au Touquet. Parce que je peux sortir ma vieille voiture, vignette 5, aller me garer au Touquet tranquillement. qu'on m'emmerde pas.
Et ah Romain, détrompez-vous.
Ah oui.
Il y a des énormes emmerdes de stationnement payant au Touquet. Ah je vous le confirme. J'ai eu moi-même un gros problème le week-end dernier. Parce que je me stationne, j'avais pas ma carte de crédit. J'avais que des pièces. Mais l'appareil n'accepte maintenant que les cartes de crédit. C'est extrêmement cher. Il a fallu que j'appelle mon épouse in extremis parce que la bagnole était passée. On a un quart d'heure pour régulariser. In extremis, à une minute près, par le truc informatique, je sais pas quoi, elle a réussi à mettre un machin.
Emmanuel, il faut mettre ton temps. Hein. T'as le téléphone aussi. Tu peux mettre ta carte bleue sur ton téléphone.
Quel boomer. Allez-y, Romain.
Le week-end.
Viens faire un stage chez nous.
On peut se garer. On peut aller au Touquet. On peut aller se garer. On se gare. On va bouffer un petit resto de plage. On va se balader dans la ville. On fait deux, trois courses. Putain, mais c'est bon. Parce que, en fait, moi, j'aime la liberté. Moi, je veux pas interdire aux gens de faire du vélo. Mais je veux pas qu'on m'interdise de faire du sport.
Ah, bah, la liberté, vous n'en reniez pas.
Un conseil.
J'aime la liberté.
Au lieu d'aller au Touquet, vous allez 5 km sur la même plage. Stationnement gratuit. Ça s'appelle Stella Plage.
Ah oui,
et Olivier Truchot y allait enfant.
Exactement. C'est très joli. Mais c'est des vieilles stations balnéaires.
Merci, merci Romain d'avoir témoigné et d'avoir raconté votre mésaventure personnelle.
Un quartier sans piéton. Le droit, parce qu'il y a tant qu'à faire, s'il n'y a plus de voiture, plus de vélo, plus de piéton, comme ça j'ai le quartier.
Samy veut réagir.
Une autoroute.
Samy veut réagir du côté de Montpellier. Bonjour Samy.
Bonjour, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Samy, alors vous
Alors, je pense qu'à Montpellier, au contraire un petit peu de Paris, c'est qu'il y a une tradition piétonne qui est liée en fait un peu à la culture méditerranéenne.
Depuis longtemps
Depuis longtemps. Et donc, du coup, le trafic automobile est venu se greffer à quelque chose qui était déjà existant. Et on n'est pas passé d'une situation, en fait, c'est les voitures qui sont un peu adaptées. On n'est pas passé d'une situation comme à Paris du tout voiture au zéro voiture et qui est vécu à juste titre comme un peu quelque chose d'autoritaire à raison. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'espaces partagés qui ressemblent à Montpellier à des espaces piétons, mais où les voitures ont le droit de passer. Mais les gens, les piétons se mettent un petit peu au milieu de la chaussée un peu partout. Les voitures arrivent, mais très doucement. Les piétons se bougent tranquillement. Et en fait, c'est une espèce de bordel un peu organisé, harmonieux, déjà, bon, le rythme, les gens courent quand même moins à Montpellier. J'étais en région parisienne avant, donc j'ai deux points de comparaison, mais les gens, je trouve, courent moins à Montpellier qu'à Paris.
Ils sont moins stressés.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça se passe plutôt bien. En revanche, ce mélange, du coup, les gens, les piétons, ne réclament pas l'interdiction des voitures ou le contraire. Par contre, là où je mets un petit peu mon bémol, c'est toujours cette histoire de trottinette électrique de cycle adulte notamment sur ces espaces-là. Et je trouve qu'à la limite, c'est eux plutôt qui sont dangereux plus que les voitures, parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais on a toujours l'impression que les gens qui sont en trotte électrique, quand ils sont sur des espaces comme ça piétons, on dirait qu'ils ont un objectif, c'est de slalomer entre les gens, comme si, je sais pas, il y a toujours, alors qu'on est sur un espace. Ben, je sais pas, mais ils veulent toujours aller vite.
Vous dites que c'est plus dangereux qu'une voiture qui est obligée d'aller lentement, alors que le.
Mais il y a eu de graves accidents.
Samy, reste avec nous pour écouter du côté de Reims cette fois-ci le témoignage de Fabien. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour les GG.
On était à Reims d'ailleurs il y a très peu de temps pour faire une émission spéciale avec les GG. Finalement, est-ce que l'avenir des villes c'est d'être tout piéton ou pas?
Ah bah moi je milite pour une piétonnalisation de certains espaces avec une exclusivité.
Sans cycliste alors.
Bah, sans cycliste aujourd'hui,
sans voiture.
Ce sera la place d'Erlon à Reims.
Et sans commerce alors. Hein.
Ouais. Bah, allez-y Fabien.
Pas toute la. Comment dire, là, nous, on a la place d'Erlon, par exemple, à Reims. Il faut avoir une vision à 360 degrés entre les livreurs Uber, les trottinettes et même les voitures qui rentrent dans le parking souterrain. Faut être accroché en piéton, hein. Des fois, faut super vigilant. Enfin, on s'arrête dans tous les sens.
Oui, mais Fabien, il vaut mieux.
Je rappelle aussi que le code de la route prévoit qu'une. S'il y a une zone piétonne, le cycliste ou le trottinette, elle doit être à pied.
Faisons respecter les règles.
Les gens ne respectent rien, mais on va créer autre chose parce que comme les gens respectent pas la loi, on s'en fout, on crée encore autre chose.
Mais Fabien, vous avez raison. Mais plutôt que d'essayer de tomber dans l'exclusivité, essayons plutôt de faire en sorte que nous cohabitions et faisons respecter les règles, Fabien.
Entre gens et laissons la liberté, un peu de liberté quand même, c'est plus possible de tout réglementer.
La liberté, la, liberté, c'est que justement les cyclistes ou les trottmen ou j'en sais rien comment on appelle ça, là, ils s'en foutent. C'est leur bon petit plaisir. Ils roulent à fond la caisse et j'en ai rien à foutre si je mets en l'air un gamin, une trottinette qui déboîte, un piéton qui déboîte parce que voilà, ils décident de traverser un passage piéton. Ils s'en foutent. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils roulent à plus de 25 km/h.
Où est chacun pour sa gueule, en fait.
Où est la carte grise? Où est la plaque d'immatriculation? Où est le casque? Où sont les gants? Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils n'ont rien à foutre sur les trottoirs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et même sur une zone partagée, je me suis pris un peu entre le pointé avec une cycliste, qui alors ce que je ne supporte pas, c'est les gling-gling. Gling-gling-gling-gling, faut que je passe. Ah bah non, bah je passe pas.
Oui, si. Comme
milieu, mais alors, du coup, vous en êtes venu aux mains déjà ou pas?
Comment?
Vous en êtes venu aux mains déjà ou pas?
Non.
Bon, d'accord.
Entre pointe.
Provocation à l'infraction, voilà, toi.
Et en fin de compte, en zone partagée, ils doivent rouler ou pas? Mais par contre, non, ils roulent à fond la
caisse. Faut pas perdre de vue quand même que dans toutes ces rues, on piétonise tout. Je veux dire, les commerces ferment les uns après les autres. Oui. Et il y a un moment, faut quand même penser à ça. Et alors, j'ai vu que les politiques sont pas coordonnées parce que notre chère Mme Trottmann, qui a repris la mairie de Strasbourg, parle maintenant de mettre une taxe sur les locaux commerciaux vacants. Comme si le mec qui est propriétaire d'un magasin, oui, il le loue pas par plaisir parce qu'il a investi pour juste comme ça pour rigoler. Mais il le loue pas exprès. Donc, on va lui mettre une taxe en plus alors que les magasins ferment tous. C'est pas.
Oui, mais bon,
merci à Samy, merci à Fabien d'avoir témoigné. Est-ce qu'on dégage les vélos des quartiers piétons, oui ou non? On va regarder ce que vous en pensez. Vous dites oui à 80%. Dans un instant, première annulation des concerts de Patrick Bruel au Québec. Le maire de Paris qui l'appelle à lui-même décider de ne pas tourner à Paris. Est-ce qu'on va trop loin? 32-16.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.